guerre planétaire nucléaire est-elle possible? Est-ce qu'elle reposerait sur un homme? Ou oui? Y a-t-il des mécanismes dissuasifs ou de retenue qui contrôleraient la folie d'un homme?
Quelle utilisation de l'arme nucléaire est une fin de la dissuasion? Autrement dit, le moindre, même si Poutine se sert de ses armes tactiques, c'est la fin de la dissuasion nucléaire, parce que la dissuasion nucléaire repose sur le fondement du non-emploi. Et les régimes qui ont été, que ce soit Stark 1, Stark 2, les différents accords nucléaires, la reconduction et ensuite la destruction de l'accord sur ABM, anti-ballistic missile, tout ça fait partie d'un jeu politique important, mais le moment où il y a la moindre utilisation, à ce moment-là, ça veut dire qu'au fond, l'arme que j'ai créée pour vous dissuader n'a plus sa valeur. Et c'est là où le nucléaire tactique est d'autant plus dangereux, parce que je peux tout justifier, parce que, vous savez, mon nucléaire tactique, là, je vous tue vous autres, mais vous autres, vous êtes encore en parfaite santé. Il y a quelque chose qui cloche dedans. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous avez utilisé quelque chose qui a été fondamentalement maîtrisé brillamment par des négociations il y a plus de 50 ans, qui disaient, vous l'avez, moi je l'ai, et grâce à ça, on a la paix. Et c'est pour ça que je rends hommage, et là, ça vous allez voir qu'il y a un lien, je rends hommage à Kadhafi. Kadhafi a renoncé aux armes nucléaires. Et il a perdu la vie 10 ans plus tard. Et les autres disent, on ne nous y reprendra plus. Et ceux qui veulent se développer le nucléaire. Alors, vous avez le nucléaire évidemment en Israël, et vous avez le nucléaire iranien. Là, je pose toujours une grande question, et je sais que ça va choquer beaucoup de gens. Pourquoi est-ce que Israël a le droit d'avoir le nucléaire et que l'Iran n'y a pas le droit? Bon, il y a 100 000 raisons, parce que les Iraniens sont sous un régime épouvantable, etc. Oui, mais fondamentalement, pourquoi est-ce que Israël, grâce au soutien américain, peut se permettre d'avoir une arme nucléaire dont elle menace son voisin iranien, mais les Iraniens n'ont pas le droit? Bon, je sais que ce que je dis est anathema, comme on dit en japonais, mais c'est absolument d'une injustice profonde, un peu dans l'esprit que vous parlez de l'Amérique latine. Mais ça ne change rien, et on continuera à travailler pour éviter que les Iraniens aient une arme nucléaire, parce qu'on sait que le danger est réel. En revanche, on sait que les Israéliens ont ça comme dissuasif, mais qu'en principe, ils ne s'en serviront pas jamais, parce qu'ils ont des moyens non nucléaires de foutre la raclée à qui vous voulez dans le Moyen-Orient. C'est la puissance la plus puissante de tous les pays du Moyen-Orient. Ils n'ont pas d'inquiétude. Et ça leur donne évidemment le pouvoir de démoniser, je vais dire, les Iraniens avec l'appui des Américains. Alors, c'est un peu ça. Je sais que j'ai répondu tout à fait de travers votre question, mais ça fait partie de mon scénario. Bifurcant. Oui.
Si on peut dire qu'elle est encore dirigée par les dirigeants soviétiques, à votre avis, est-ce que c'est dans l'âme russe de dire russe d'être dirigé par des dictateurs? Bien les Russes ont une âme un peu. Le peuple russe a quand même une âme démocratique.
J'ai cherché, mais je vais quand même essayer de répondre. Alors, il y a le côté slave qui, je crois, doit être pris en considération. Ce côté très émotif, ces espèces d'élan, qui sont moins contrôlés que dans la formation plutôt latine et plutôt rigoureuse, plutôt juridicisante, etc. Je ne pense pas que ça explique exactement ce qui se passe en Russie. Je crois que l'histoire même de la Russie, si vous remontez à la période bolchevique, 1917, si vous voyez la Catherine de Russie, si vous voyez toute cette période-là, elle est effectivement plus, j'aime pas le mot barbare, mais elle est plus violente, elle est plus dangereuse, ses réactions sont moins prévisibles. Mais quand vous voyez un Poutine, au contraire, c'est tout canté, c'est tout planifié. Alors, vous savez, s'interroger sur l'âme d'un pays, c'est parfois un peu dangereux. Je ne sais pas si on peut aller très loin dans cette direction-là. Mais c'est vrai que les pays qui ont une histoire ancienne ont une une façon d'être qui est distincte des autres, et je ne vais pas me lancer dans une diatribe sur les amis français où j'ai vécu pendant 4 ans, et il y a des différences nationales qui sont ancrées par l'histoire, ça c'est indéniable, et c'est certain que dans le contexte de la Russie, ce caractère peut-être plus explosif que d'autres explique un peu ce qui se passe, mais c'est chercher à donner des explications globales sur très souvent des phénomènes qui sont beaucoup plus spécifiques. Et je crois que c'est sur ce plan-là que je ne m'aventure pas plus loin. Mais vous savez, j'ai vécu en Russie pendant 3 ans et il y avait eu pas mal aussi. Mais je me débrouille quand même pas mal en russe. J'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire quand vous allez à... Pour moi, un des plus beaux souvenirs, c'est d'arriver à un moment donné, une espèce à Saint-Pétersbourg, j'entends des voix qui chantent, et on rentre là-dedans. Et c'est quelque chose comme 2 fois ou 3 fois la taille de cette pièce-ci. C'est peut-être un monument para-religieux ou autre. Et vous avez ces chœurs qui chantent. Et c'est d'une telle beauté, c'est Prodia Capella, que vous dites qu'il n'y a rien de plus beau au monde que cela. Et si c'est ça les Russes, j'en prends tous les jours au petit déjeuner et jusqu'au soir. Et non seulement ils chantaient, mais à un moment donné, il y a toute une partie des chœurs qui s'en vont. Et là, moi, je regarde mon épouse intérieure, je dis, pourquoi ils s'en vont? Non, ils venaient derrière. Et l'auditoire était au centre et le chant était tout autour. Quand vous voyez ça, vous vous demandez « What went wrong ?» Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce pays qui a tellement un sens artistique, le ballet et tout ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est c'était De Gaulle, si je cite encore De Gaulle, c'est De Gaulle qui disait « La France a un crédit latent à la dictature. » C'est admirable. Le président de la France qui dit « Méfiez-vous, nous pourrions devenir une dictature. » Vous savez, je m'en tiens là parce que, est-ce que les Belges sont des dictateurs? Je ne sais pas, je demande à un philosophe de m'expliquer. Autre question.
Vous n'avez pas parlé de l'Azerbaïdjan encore avec la guerre qui revient entre la Roumanie et l'Azerbaïdjan. Il semblerait que les Russes y sont pour quelque chose dans ce retour.
Entre la Roumanie et l'Azerbaïdjan? Ah! Si vous souvenez qu'à un moment donné, j'ai évoqué les irrédentismes, et ça c'est exactement un cas d'irrédentisme, c'est le reliquat du traité de Sèvres 1914-1918, ces histoires bâclées qui ont été faites pour accommoder un peu tous ces champs prochains, c'est pour ça que le conflit israélo-palestinien perdure, ce sont toutes ces décisions prises dans des grandes réunions avec des intérêts distincts, différents. Vous avez en 2018 les points Wilson qui n'ont pas été pris en compte. En 1945, il y a eu cette création d'une structure nouvelle. Et à l'intérieur de ces structures-là, on a pâqué le travail le plus rapidement possible et on n'a pas réglé les problèmes d'irrédentisme. Alors qu'au fond, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y aurait eu une capacité de régler ces problèmes-là. L'Union soviétique n'était pas encore totalement constituée au niveau de sa capacité d'absorption des pays voisins. Yann Mazarin qui n'était pas encore tombé de la fenêtre, poussé de la fenêtre. Donc, si vous voulez, la façon dont les guerres se terminent, c'est la partie la plus dangereuse. Et je crois que je ne peux pas vous répondre autrement qu'en alléguant cette version-là.
Mais Mme Pelosi, il était quand même...
Qui, pardon?
Mme Pelosi, elle était en Arménie, en Azerbaïdjan, la semaine dernière.
Mme Pelosi, oui. Mais même, en français, vous parlez de la Roumanie et de la Hongrie, mais là, vous parlez de l'Arménie. Ah, oui.
L'Arménie.
Bon, alors, le Nakhitchevan, ça, c'est du côté turc. Cette partie du pays qui a été revendiquée, malheureusement, de façon légitime, c'est certain que la possession de cette espèce d'enclave à l'intérieur des Azerbaïdjans était théoriquement représentée aux Azerbaïdjans. Mais c'est ça aussi le cadeau de Staline. Car c'est Staline qui a dessiné toutes ces frontières pour être certain qu'il y ait constamment des conflits entre eux de façon à ce qu'ils ne puissent pas devenir totalement autonomes. Et vous voyez ça aussi entre, pas le Kazakhstan, mais l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Tout ça sont des irrédentismes qui ont été délibérés de la part de Staline. Alors, je ne peux pas vous dire comment on peut régler cette question-là et que Mme Pelosi se promène ou non ne change absolument rien au décor final. Ça, c'est... Et c'est vraiment désolant. Vous touchez un point sensible parce que j'étais en Arménie en 92 au moment du pire moment de la guerre entre les deux pays. Et c'était l'Arménie qui est un pays tellement musical. Il faisait glacial, c'était en octobre, il faisait glacial. On coupait les arbres le long des boulevards pour pouvoir chauffer les maisons. Des enfants mouraient de froid. Et malgré tout, je me souviens, j'étais allé là, et l'ambassadrice de France en Arménie, qui avait été consul général au Canada, et m'a invité en me disant « Je vais vous faire écouter 3 concerts en plein air, en plein froid. La seule différence, c'est que vous verrez que les violonistes ont des gants coupés pour pouvoir jouer au violon. » Il y a des histoires absolument... Je sais que ça n'a absolument rien à voir avec la question, mais ce que je veux dire par là, c'est que le drame de toutes ces décisions politiques à la va-vite, à la fin d'une guerre épouvantable, ne rend absolument pas justice aux désirata des pays, de leur géographie et de leur histoire. Et c'est ça le drame que nous vivons en grande partie aussi en Ukraine. L'Ukraine étant à la fois partiellement russe d'origine, partiellement polonaise, à mi-chemin des deux. J'explique toujours quand je ne l'ai pas dit ici, mais quand on parle de Kiev, Kiev est une ville russe. Kievlok est une ville russe avant Moscou, mais bien plus ancienne. C'est une ville russe, oui, mais bon, est-ce que Bruxelles c'est flamand ou c'est wallon, je ne sais rien, vous pouvez me répondre à ça. Non, ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas réparer les avatars de l'histoire, on peut essayer de les accommoder. Or, nous vivons à une époque où justement ces accommodements ne semblent plus réalistes. Je sais que c'est une réponse caverneuse à une question fondamentale, mais on peut aller parler à Mme Pelosi, mais ça ne changera rien. Ah, encore ?
Oh. Non.
Ah, mais moi je suis prêt.
Très très vrai, parce que notre vaillant conférencier retourne à Ottawa ce soir, parce qu'il enseigne demain matin.
Non, demain à 2h. À demain 2h, donc j'ai déjà.
Initialement,
c'est pas la même chose d'enseigner.
Alors, deux vraies questions, s'il vous plaît.
Oui. On a pu voir récemment que la Turquie tend à s'immiscer en tant que négociateur. Quels sont ses intérêts réels?
Alors, Erdogan est un personnage qui assez extraordinaire, qui a des tendances dictatoriales que nous avons tous constatées, qui veut premièrement gagner ses élections, qui sont l'année prochaine. Et il a du mal. Parce que autant son économie était florissante au début, autant il y a une chute absolument ahurissante, une inflation et en même temps une façon de réduction de la valeur de sa monnaie. Alors aussi, il y a une espèce de volonté presque historico-ottomane. Car il voulait redevenir pratiquement le sultan du monde musulman. Et c'est encore dans sa tête, et après tout, puisque l'Empire ottoman a duré 500 ans, et pour même plus que ça, et pourquoi est-ce que je ne peux pas redevenir, au fond, le chef religieux, le chef de la religion musulmane? Il y a une fantasme allégorie, hein, mais en même temps, il n'est pas bête. Il est moins dangereux que Poutine, mais d'un autre côté, il est plus imprévisible que Poutine. Mais il y a eu aussi cette espèce de rixe entre lui et l'Égypte. Parce que l'Égypte étant quand même une grande puissance dans cette région-là, et qu'il y avait une vision différente sur ce qui se passait, par exemple, en Libye. On finit à minuit, hein, c'est promis. Parce que la Libye est un enjeu extraordinaire, à la fois sur le plan pétrolier et autres, et à la fois comme zone d'influence pour la Turquie. Mais la Libye, pour les Égyptiens, c'est 500 000 travailleurs qui envoient leur redevance de leur travail en Égypte. Alors, vous avez là toute série de différents facteurs qui expliquent l'opposition entre ces deux pays. Mais comme l'économie turque s'est effondrée, et là, tout à coup, Erdogan se dit « Bon, il va falloir que je me rattrape. » Alors, c'est « I love you, moi non plus », avec les Américains. Je peux dire refaire les F-35 chez moi, alors c'est fini, tu ne peux plus les faire. Mais non, mais je vais les refaire, d'accord. Oui, mais tu as pris les SS, les missiles anti-missiles russes, alors ça ne va pas. Ah, c'est un jeu permanent. Erdogan est totalement imprévisible d'une journée à l'autre. Mais son jeu était véritablement au début d'espèce de cette domination sur le monde musulman, en tout cas de la région, parce que ça ne fait pas aller jusqu'en Indonésie ou au Pakistan. Mais là maintenant, les cartes, il les a mal jouées, mais il a très bien joué la négociation en ce qui concerne le départ des bateaux. Alors Erdogan n'arrête pas de jouer d'un tableau à l'autre, mais c'est essentiellement pour continuer à être au pouvoir. Il en a déjà 20 ans et il voudra en continuer pendant 10-15 ans, mais là ça va moins bien pour lui. Alors là tout à coup on embrasse, il allait embrasser Biden, alors que Biden ne veut même pas le voir. C'est un jeu permanent, imprévisible et en même temps terriblement délétère en ce qui concerne la situation des Kurdes. Parce que, d'ailleurs, volte-face extraordinaire. Tout à coup, Erdogan, qui sent que ça va moins bien pour lui, se rapproche tout à fait de la Syrie, de Bachar el-Assad. Alors que, d'ailleurs, pas seulement Erdogan, nous avons tous dit Bachar ne sera plus jamais au pouvoir dans son pays. Il est encore bien mieux que vous et moi. Mais non, mais alors là, tout à coup, Erdogan dit bon, ça ne va pas très bien avec les Égyptiens, et là, je vais me rapprocher de Bachar, et il y a eu un contact qui se dissout. Même chose avec les Émirats, bataille contre les Émirats, parce que les Émirats ont une très forte influence dans la région, et là, maintenant, on recommence à s'embrasser sur les deux joues, et en essayant de pas se mordre en faisant.
Ça, c'est une réponse très longue pour une question.
Ah, ça, c'est un
peu
j'y
vais. On questionne le système international et ce que je me demande, c'est, en fait, il a été défini un peu autour de après 1945, est-ce qu'il n'est pas arrivé aussi au bout de ses possibilités et qu'on aurait dû, ou on devrait penser à une autre façon?
Demain matin. C'est gentil. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'effectivement le système de 1945 a eu sa durée, mais la question est toujours la même, le remplacer par quoi? Et d'après moi, le seul remplacement, c'est en raison de ce que j'expliquais du passage de l'Atlantique au Pacifique, vous avez une donne totalement différente, Belt and Road, que les Chinois ont mis de l'avance, c'est une des visions totalement distinctes. C'est-à-dire que nous vous prêtons de quoi vous développer, mais vous devenez totalement inféodé. Et c'est véritablement ça, la technique chinoise est très claire, et je pense que c'est vraiment ça qui est un avenir. Malheureusement, là, le multilatéral va disparaître complètement. Alors, est-ce qu'on en revient au 19e siècle et les grandes puissances, ou bien est-ce qu'on vient, au fond, simplement sous la domination de plus en plus nette et claire de la Chine, jusqu'à ce que l'Empire Chine disparaisse 300 ans plus tard? Je ne sais pas, mais je crois que ce que vous soulevez est intéressant, parce que les systèmes que l'on croit éternel, ont finalement une vie qui n'est pas si longue que ça. Parce que, je ne sais pas, demander au feu président américain Roosevelt, est-ce qu'il reconnaîtrait cette alliance qui a été créée, est-ce qu'il reconnaîtrait le monde qu'il pensait avoir façonné et que ses successeurs ont façonné? Pas sûr. Mais l'homme reste l'animal le plus dangereux sur la Terre. Et je crois que c'est ma conclusion.
Alors encore une fois, tous nos remerciements pour avoir partagé avec nous votre incomparable expérience d'abord et toutes les réflexions qu'elles suscitent. Je ne dis pas qu'elles sont très roses, mais elles sont réelles, et c'est comme ça qu'il faut les aborder. Et une seule conclusion s'impose, nous espérons vous réinviter. Parler à notre conférencier, n'hésitez pas. Oui, c'est pas.